accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Well, first of all, I asked for a strong mandate.
Bonjour à tous. Exit donc le parti d'ultra-gauche Syriza en Grèce et son premier ministre Alexis Tsipras. C'est l'alternance après presque 4 ans d'austérité. Ainsi en ont décidé les électeurs en ce début juillet. Le parti conservateur Nouvelle Démocratie fait son grand retour avec un nouveau chef de gouvernement, Kyriakos Mitsotakis, qui n'est autre que le fils de l'ancien premier ministre Konstantinos Mitsotakis. Qu'est-ce qui a motivé les électeurs? C'est le reportage à Athènes de Charlotte Stivenard.
Dans le quartier de Goudi à Athènes, ce dimanche après-midi, l'école a été transformée en bureau de vote. Un couple de retraités est venu se reposer sur un banc à l'ombre. Comme toujours, ils ont voté Nouvelle Démocratie et son candidat de 51 ans, Kyriakos Mitsotakis.
Les conservateurs ont fait des fautes énormes, mais je pense que comme c'est un jeune qui y croit et qui y a appris, c'est la seule personne apte à sortir le pays du chaos où il se trouve.
Les gens vont montrer à quel point ils ont été déçus par ce gouvernement de gauche. Les gouvernements précédents ne distribuaient plus l'argent public. Pourquoi ? Ils étaient plus bêtes que Syriza ? Pour moi, il était clair que c'était des mensonges ce que la gauche promettait.
En désaccord, une autre électrice retraitée, elle aussi, décide de se mêler de la conversation. Pour la seconde fois, Mary a voté Syriza et elle soutient Alexis Tsipras.
Tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'avaient signé les précédents. Il faut arrêter de mentir et savoir ce qui nous est arrivé.
Elle ne croit pas au changement avec la Nouvelle Démocratie, un parti traditionnel qui a été au pouvoir en alternance avec les socialistes du PASOK depuis la chute de la junte en 1974. Le père de Kyriakos Mitsotakis a été premier ministre, sa sœur ministre et maire d'Athènes. Bref, on est loin du renouveau.
C'est une dynastie politique. Je ne pense pas qu'un parti avec un passif aussi négatif puisse gouverner la Grèce de façon juste.
Signe du désarroi des électeurs, le taux d'abstention record de 42%. Les plus jeunes sont particulièrement désarmés. Cette étudiante en biologie de 20 ans a voté pour la première fois cette année. Elle a donné sa voix au Parti Socialiste du Kinal car elle connaît un de leurs candidats, mais elle ne se sent pas représentée.
On est vraiment devant une impasse car ils disent certaines choses et puis en fait ils font autre chose. Donc la plupart des jeunes de mon âge se disent qui est le moins mauvais, qui va faire le moins de dégâts.
Selon un sondage de Singular Logic, les jeunes ont voté en majorité pour Syriza, contrairement aux générations suivantes.
Et la politique se joue aussi au plus près des citoyens dans les grandes villes. Et la lutte contre la pollution n'est pas le moindre des enjeux. À Vienne, la municipalité fait la chasse aux fumeurs inciviques qui jettent leurs mégots par terre. Céline Béal y a rencontré les fonctionnaires qui veillent au respect de la loi.
Bonjour mesdames, service de la ville, vos papiers s'il vous plaît. Vous avez en effet commis une pollution selon la loi de préservation viennoise. Oui, je vous parle de la cigarette que madame a jetée au sol. Dans les pavés ici, c'est parfait. Particulièrement difficile de les balayer ensuite. Et vous avez un cendrier public juste là, à quelques mètres. Ce n'était pas nécessaire de se débarrasser de son reste de cigarette au sol.
La fumeuse, prise en flagrant délit, fait d'abord mine de ne pas savoir ce dont la fonctionnaire lui parle. Ce mégot lâché nonchalamment entre les pavés d'une place ombragée pourrait lui coûter au moins 50 euros. Au final, elle le ramasse et s'en tire avec un simple avertissement pour cette fois. La fonctionnaire de la ville, qui patrouille aujourd'hui dans le 5e arrondissement, fait partie d'une brigade appelée West Witchers. Leur rôle, faire la chasse aux personnes qui jettent leurs déchets dans les espaces publics viennois. À temps plein ou à temps partiel, ils sont pas moins de 500 à sillonner cette ville de 1,8 million d'habitants. Mais au fil des années, les pratiques ont évolué. De plus en plus de gens utilisent les nombreuses poubelles publiques. Un problème persiste cependant, les mégots. La brigade des West Witchers joue un rôle autant dissuasif qu'informatif. Devant une école, discussion avec de jeunes fumeurs, Mohamed et Jacob. Est-ce que cela leur arrive de jeter leurs cigarettes par terre?
Une fois, j'ai dû payer une amende. Depuis, je ne le fais plus. C'était à la gare. J'ai été pincé tout de suite. 68 euros. Je me souviens bien.
Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une amende.
Mais vous comprenez pourquoi ?
Bien sûr, il suffit de regarder les rues. Ce n'est pas beau quand il y a des ordures partout.
Daniela explique à ses concitoyens et concitoyennes qu'un mégot met 15 ans à se décomposer et peut contaminer 40 à 60 litres d'eau. C'est pourquoi il est aussi interdit de faire disparaître son mégot dans un égout. C'est pourtant là que finissent quand même beaucoup d'entre eux, emportés dans les caniveaux les jours de pluie. Dans les canalisations, sous la ville. Il a plu la veille et le niveau des eaux est monté, puis redescendu. Elles ont laissé les couloirs jonchés de détritus et des mégots, là encore. Roman Valenta, égouttier depuis 28 ans, sait comment ils atterrissent là en aussi grande quantité, via les caniveaux, mais aussi depuis les maisons des particuliers.
Les gens les balancent dans les toilettes. Il ne faut pas le faire, mais c'est sûr que des gens le font, parce qu'ils sont trop flemmards pour aller les mettre à la poubelle, ou alors ils étaient encore allumés, et ils ont préféré les jeter dans les toilettes, c'est sûr.
Lui et ses collègues se retrouvent à tout devoir ramasser. Retour à la surface. Une ONG écologiste autrichienne, Global 2000, essaye de faire passer le message à la population. Les mégots sont non seulement des ordures peu esthétiques, mais surtout, ils posent des problèmes environnementaux. L'écologue Lisa Kerneger explique que non seulement les filtres sont composés de matières plastiques, mais en plus, ils retiennent les produits toxiques contenus dans la fumée.
Le filtre recueille surtout des métaux lourds, des goudrons, de l'acide cyanhydrique, des dioxines, du plomb, de l'arsenic, du chrome, etc. Quand il finit dans la nature, il forme un point d'émission qui libère ces métaux lourds. Ça nuit à l'environnement.
Un danger pour les plantes, mais aussi pour les êtres vivants.
D'un côté, si de jeunes enfants ou des chiens ou d'autres animaux les ingèrent par inadvertance, ça peut provoquer des symptômes d'intoxication. De l'autre, des études ont montré que les substances nocives contenues dans les mégots contaminent l'environnement assez rapidement. Elles perturbent l'écosystème, surtout si ces substances se répandent dans l'eau. Elles tuent des bactéries, de petits organismes et même, en cas de forte concentration, des poissons.
Selon Lisa Kerneger, une prise de conscience collective est en cours en Autriche. Par exemple, à Vienne, la municipalité a mené une campagne d'information et a commencé en 2009 à multiplier les cendriers publics dans la ville. Il y en a désormais plus de 20 000. Au-delà de l'Autriche également, le problème gagne en visibilité, comme le montre la directive européenne sur les déchets plastiques, adoptée l'année dernière.
Par exemple, l'Union européenne a inscrit dans sa récente directive, que l'on connaît sous le nom de directive paille et coton-tige, que les industriels du tabac doivent payer pour les travaux de nettoyage des mégots et qu'ils doivent faire de la sensibilisation pour que les cigarettes ne soient plus jetées dans la nature comme ça.
Dans les rues, la Westwatchers Daniela trouve que la politique de fermeté viennoise fait son effet. Elle est convaincue que les habitants sont plus disciplinés qu'auparavant. Et les derniers récalcitrants, on va réussir à les convertir à la propreté et à l'environnement, dit-elle optimiste, avant de s'élancer un carnet d'amendes à la main à la chasse aux derniers fumeurs pollueurs.
On estime que 2/3 des cigarettes fumées dans le monde finissent dans la nature, soit entre 340 et 680 millions de déchets par an. Au Portugal, c'est tout un arsenal législatif qui est en train d'être adopté contre les mégots sur le trottoir, avec peut-être de très lourdes amendes. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
Le texte de loi approuvé sanctionne non seulement les fumeurs pollueurs, mais aussi les établissements comme les restaurants qui ne fourniraient pas des cendriers à leurs clients. C'est l'unique député du PAN, parti des personnes, des animaux et de la nature à l'Assemblée nationale, qui est à l'origine de ce projet de loi inédit. Le montant des amendes envisagées, comprises entre 500 euros et 7000 euros, a provoqué un tollé de protestations et donné une dimension très politique au débat. La coalition des communistes et des verts a accusé le PAN de vouloir instaurer un état policier en voulant sanctionner le comportement des fumeurs. Pour se défendre, le député André Silva a mis en avant qu'en aucun cas on ne pouvait considérer l'acte de polluer comme une liberté individuelle. Le PAN n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de tumulte dans l'hémicycle. Le député innove. Pour convaincre ses collègues à l'Assemblée, il a présenté une bonbonne remplie de mégots, fruit du ramassage effectué par 3 personnes sur 100 mètres de trottoir au centre de Lisbonne. Il s'en jette 7 nuits par minute au Portugal. Au-delà de la pollution visuelle, il y a un réel danger pour la santé publique, estime le PAN. Les mégots contiennent des substances toxiques et une fois au sol, la pluie entraîne ces poisons dans le sol et dans la chaîne alimentaire. Le PAN propose aussi la création d'une écotaxe pour les producteurs de tabac afin de financer la formation des fumeurs et mener des campagnes de prévention en ville. Quant aux pouvoirs publics, ils doivent s'impliquer pour doter les villes de poubelles ou de cendriers. L'Assemblée nationale n'a pas encore tranché sur les amendes, comme celle très lourde de 7000 euros pour les établissements qui ne fourniraient pas de cendriers. Le PAN mise surtout sur un effet dissuasif.
Et la lutte contre la pollution passera-t-elle par le développement d'une agriculture citadine ? En partie, juge la mairie de Paris, qui a dédié 40 sites sur une trentaine d'hectares à cette nouvelle activité maraîchère. On en est aujourd'hui à la saison 3 des pariculteurs, comme on les appelle. Juliette Rangeval s'est rendue sur un lieu exceptionnel de l'agriculture urbaine, un potager installé sur le toit de l'Opéra Bastille.
Qui pourrait imaginer qu'ici, à quelques dizaines de mètres de hauteur, se trouve l'un des plus grands potagers de Paris. 2500 m² de fruits et légumes sur les toits de l'Opéra.
Mais en fait, j'ai l'habitude de voir des belles vues, mais là, c'est vraiment une des vues les plus exceptionnelles de Paris. Parce qu'on a une vue à presque 360 degrés, et puis on est juste au niveau du génie de la liberté, donc la petite statue qui est en haut de la colonne de Juillet sur la place de la Bastille.
Frédéric Madre est le cofondateur de Topager, une entreprise créée en 2012 qui produit et vend les fruits et légumes qui poussent sur les hauteurs de la Bastille. C'est la direction de l'Opéra qui est à l'origine du projet. Elle a dépensé 300 000 euros pour aménager les toits. Topager a investi 50 000 euros de son côté pour cet opéra des quatre saisons.
Donc là, on voit pas mal de variétés de tomates anciennes, et donc qui sont assez fragiles, quoi, mais qui sont super bonnes aussi, surtout quand elles sont cueillies à maturité. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut cueillir tous les mardis matin pour livrer des paniers aux adhérents du projet qui sont des salariés de l'opéra pour l'instant.
Du coup, aujourd'hui, il y a une barquette de feuilles et fleurs.
53 adhérents qui, moyennant 10 euros par semaine, repartent avec un panier garni, comme Frédéric Rousseau. La modiste de l'opéra, barrette et épingle à cheveux piquée sur son tablier noir, est venue chercher son panier et celui de la costumière aussi.
Alors, il y a des carottes, je crois, concombres, oignons, des petits navets, de la menthe. Ça sent très bon. Ah, moi, je trouve qu'il faut mettre de la nature dans les villes.
C'est l'un des intérêts de l'agriculture urbaine, renouer le lien entre le citadin et la nature. Quelques ajustements sont nécessaires, comme l'explique l'une des maraîchères de Topager, Marie Carcenac.
Des fois, ils ont été plutôt surpris sur la taille des légumes, sur pourquoi des fois la grille de prix est assez élevée. Mais je pense que la plupart sont très satisfaits maintenant. Y compris des gens qui râlaient un petit peu sur les tailles des légumes, c'est les premiers à dire « Ah non, mais c'est les meilleurs, les petits légumes ». Enfin voilà, ça évolue et ça se met en place.
Si chacun repart avec son petit panier de produits ultra frais, l'idée, ce n'est pas de nourrir toute la population parisienne, rappelle Frédéric Madre.
Même si on végétalise tous les toits de Paris, qui représenteraient à peu près 80 à 100 hectares de toiture plate, on n'arriverait qu'à produire qu'à peine 5% de la consommation en fruits et légumes frais de la population parisienne. Donc l'enjeu, c'est pas d'aller vers l'autarcie du milieu urbain. Par contre, c'est vraiment de sensibiliser les urbains et qui consomment plus local notamment, donc réduire aussi les coûts de l'alimentation en termes de bilan carbone et de favoriser aussi le développement d'une agriculture périurbaine de qualité.
En revanche, l'agriculture urbaine a beaucoup d'intérêt pour lutter contre les inondations et le réchauffement climatique.
Donc le problème de Paris, c'est qu'on a un réseau d'évacuation des eaux de pluie qu'on appelle un réseau unitaire, c'est-à-dire que toutes les eaux de pluie sont mélangées avec les eaux usées des bâtiments. En fait, c'est un système qui date de Haussmann, qui était la vision hygiéniste déjà de la ville parisienne, mais ce qui se passe en fait quand il y a un orage avec ce réseau unitaire, c'est que les stations d'épuration n'ont plus la capacité dès qu'il y a trop d'eau qui arrive dans les canalisations. Et du coup, ils ouvrent les vannes, ils mettent tout dans la Seine. Et l'idée de la mairie de Paris, ça a été plutôt de promouvoir la végétalisation des toitures et au maximum aussi garder de l'infiltration en pleine terre pour pouvoir en fait retenir ces eaux d'orage sur chaque parcelle. Donc c'est les promoteurs, les investisseurs de l'immobilier qui vont investir dans cette infrastructure verte qui va aussi rafraîchir la ville. Donc là, le fait de promouvoir la toiture végétale, bah, ça a plein d'autres avantages. Et notamment, l'irrigation, ça permet aussi de rafraîchir d'autant plus le bâtiment. Ça le permet de moins climatiser en période de canicule, en fait, d'avoir une toiture végétale. Et du coup, c'est des gains qui peuvent être assez importants à l'année.
Merci à notre partenaire.
C'est cette variété de projets qui
intéresse Pénélope Comites, adjointe à la mairie de Paris chargée de la question. Ce matin-là, elle annonce les nouveaux sites dédiés à l'agriculture urbaine dans les prochains mois. Ce sont les nouveaux lauréats des pariculteurs, des petites entreprises, des associations qui pourront s'installer sur des espaces de la ville ou dans des jardins mis à disposition par différents partenaires. Pour les plus grands projets, la mairie privilégie désormais la pleine terre qui permet aux eaux de pluie de s'infiltrer et donc de lutter contre les inondations. Du côté des partenaires qui s'associent à la ville, on commence à trouver des bailleurs sociaux, mais aussi la grande distribution comme Carrefour, Intermarché ou Système U qui veulent mettre en place des circuits courts pour la commercialisation des fruits et légumes.
De l'Ukraine soviétique jusqu'en Israël, puis en France, tel est le parcours pas commun de la sculptrice Bella Goldberg, née à Kiev dans les années 50. À travers son parcours individuel, c'est tout un pan de l'histoire soviétique et de l'histoire juive qu'on apprend à comprendre dans cette bande dessinée intitulée « Revuznik, URSS, l'impossible départ ». Son auteur, Fleur Talamon, a raconté à Catherine Roland comment cette jeune femme, cette artiste, était devenue une Revuznik, littéralement celle à qui on a refusé un visa pour Israël.
Bella, qui naît en 1951, juste avant la mort de Staline, fait partie de cette génération où ses parents se sont assimilés. Ils n'ont plus de religion. D'ailleurs, son père est un membre du Parti communiste. Donc, elle fait partie de cette communauté juive par son grand-père qu'elle voit pendant les vacances.
Alors, vous racontez aussi la période post-stalinienne à Kiev, une période qui est étouffante pour tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule.
Cette petite fille, très vite dans sa vie, à 3-4 ans, elle se fait agresser par des enfants. Elle a compris qu'elle était reconnue, stigmatisée comme juive, alors même que de l'autre côté, on lui disait mais non, tu es comme tout le monde. Donc ces années pour cet enfant, c'est d'une part se rendre compte de sa différence et d'autre part de se rendre compte qu'elle est artiste dans l'âme, elle aime modeler, elle aime sculpter. Et tout le monde essaie de lui dire que tout le monde est pareil et ça ne veut pas entrer.
Donc c'est une rebelle par rapport à la société de l'époque, c'est une rebelle par rapport à ses parents aussi.
Ses parents d'abord sont des scientifiques, donc cette histoire de faire de la sculpture, pour eux c'est une bohémie. Enfin, ça leur convient pas du tout. Et puis, c'est vrai que eux, je pense qu'ils incarnent un couple qui a voulu s'intégrer. D'ailleurs, qui a réussi, parce que sa mère est médecin, son père est ingénieur. Et ces gens qui sont éduqués, et bon an, mal an, vivent plutôt bien dans ce système. Et donc, évidemment, le comportement de leur fille, qui va s'attirer toutes les foudres du régime, les effraie, les horrifie même.
Mais finalement, Bella va réussir à exercer sa passion, la sculpture. Mais elle n'accepte absolument pas l'art officiel.
Pour elle, ça n'a pas de sens de répondre à des commandes dans lesquelles elle n'a pas le choix de s'exprimer. Donc, elle devient ce qu'on appelle une artiste non officielle, quelqu'un qui représente un danger pour la patrie, puisque pas dans la ligne officielle du parti.
Donc, la seule solution, c'est de partir.
Elle décide de partir et donc, elle réussit à donner son nom à des gens qui partent en Israël afin de recevoir une invitation. Elle fait une première demande de visa et, comme dans la plupart des cas, ce visa est refusé. Et c'est donc là où elle rentre dans la catégorie refusnik, c'est-à-dire des gens qui ont refusé un visa pour Israël.
Alors vous allez raconter son périple ensuite, notamment en Israël. Finalement, Israël, ça ne se passe pas forcément si bien que ça.
Non, elle arrive en Israël, elle est bien accueillie, on lui offre une possibilité d'intégration et des papiers, etc. Mais on l'envoie immédiatement dans un kibboutz, c'est la règle.
Et oui, là, elle a l'impression de se retrouver de nouveau en Union soviétique dans le collectivisme.
Exactement. Et là, vraiment, elle pète un câble, si je puis dire. Elle se débat et finalement, il la laisse repartir. Et elle se sent complètement trompée parce que les Israéliens ne voient pas ce que vivent les Juifs d'Union soviétique.
Oui, puis finalement, elle va s'installer en France jusqu'en 2015. Et là, c'est les attentats qui la rattrapent.
C'est vrai qu'à ce moment-là, la question se pose pour elle et ses amis qui sont d'origine juive, rester ou pas rester en France, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'être en guerre dans ce pays, et même plus en insécurité qu'en Israël, qui est pourtant dans un état de guerre permanente, on peut dire.
Revuznik URSS, l'impossible départ de Fleur Talamon et Renaud Pénal est publié chez Stenkis. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast. À demain.